Matière à penser, Frédéric Worms.
Ce soir, j'ai le très grand plaisir de recevoir Heinz Wissmann, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonsoir Heinz Wissmann.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci d'avoir accepté de venir discuter ce soir. Je vous ai présenté à travers votre fonction à l'École des hautes études, mais il y a bien des manières de vous présenter. Et vous-même, vous avez publié un livre qui est en partie une autobiographie, un livre important intitulé « Pensées entre les langues ». Et le premier chapitre s'intitule « Vagabondages autobiographiques ». Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'un mot, une métaphore vague, « vagabondage autobiographique ». En fait, vous défendez l'idée de vagabondage, et en fait, c'est presque votre idée centrale, le fil directeur de toute votre pensée, Heinz Wissmann.
C'est remarquable ce que vous dites.
Est-ce que je me trompe ?
Absolument pas.
Comment est-ce que vous définiriez le vagabondage ?
Le vagabond est celui qui quitte le lieu où il est chez lui, et il éprouve l'étrange fascination de l'ailleurs.
Il part volontairement, en général, oui
ou... il y a une grande tradition romantique allemande, qui d'ailleurs, dans la poésie, dans la musique, a laissé des traces. C'est le Wanderer, c'est celui qui quitte le lieu pour aller à la rencontre de la vraie vie. Or, ce qui fait qu'on part peut être le résultat d'une contrainte, ce qui initialement a été mon cas, puisqu'on était des réfugiés à la fin de la guerre.
Donc un premier vagabondage dans l'Allemagne elle-même, finalement.
Oui, tout à fait. On a erré pendant des semaines pour éviter d'être rattrapé par l'armée russe. Enfin, ça c'est la vie.
Vous le racontez
45,
très bien dans ce chapitre, justement.
Et ça a entraîné chez moi une espèce de... Je ne sais pas, c'est comme une expérience qui a laissé des traces... et qui a, tout en étant douloureuse un peu, mais pas trop, puisque j'étais jeune, a eu pour effet que plus tard, je me suis beaucoup déplacé, toujours avec cette idée en tête qu'il reste quelque chose à conquérir qui n'est pas à portée de la main.
Et donc progressivement, cette expérience forcée du déplacement, vous l'avez déplacée ailleurs, mais aussi raccrochée à cette grande expérience du romantisme allemand, de l'expérience du voyage, et donc finalement une théorie de la culture.
On pourrait dire ça.
Comment est-ce que le vagabondage peut devenir vraiment un principe de culture ? C'est-à-dire, finalement, même l'essentiel de la culture, le fait de passer d'un espace à l'autre, sans règles préconçues, de se laisser transformer. Il y a un lien chez vous, je passe tout de suite à une autre idée centrale, entre finalement l'idée de vagabondage et l'idée de formation, l'idée d'éducation. C'est-à-dire, c'est pas juste une errance qui ne produit rien. Finalement, elle produit l'essentiel, c'est-à-dire un sujet libre.
Enfin, le voyage de formation, c'est un grand classique.
Mais souvent, on aurait envie d'opposer voyage de formation et vagabondage. Or, c'est la même chose,
d'après
vous.
C'est la même chose. Et ce qu'il y a, c'est que dans le lâcher-prise, parce que le vagabondage, c'est une forme de lâcher-prise, il y a, dans le meilleur des cas, une nouvelle disponibilité pour ce qui arrive. Et donc, il faut évidemment être extrêmement attentif. Le vagabondage, ça ne peut pas être simplement une errance. Il faut que ce soit quelque chose où on s'attend à tout moment de rencontrer quelque chose qui réveille probablement ce qu'on a déjà connu sans s'en apercevoir. Donc, tout vagabondage véritable est un retour chez soi.
Oui, alors que finalement, il y a ceux qui ne voyagent pas croient avoir une identité. Ceux qui errent n'ont plus même la recherche d'une identité, peut-être parce qu'elle est plus possible. Le vagabond, c'est un entre-deux, finalement.
Enfin, c'est conçu comme ça, en tant qu'activité, appelons-la culturelle. C'est aussi générationnel, parce que les enfants, par rapport aux parents, par exemple, doivent devenir des vagabonds à un moment donné de leur existence, quitte à retourner dans la famille, c'est pas le problème. Le vagabond, c'est justement pas celui qui est SDF. C'est quelqu'un qui s'expose volontairement à toutes sortes d'impacts qui lui viennent d'ailleurs, et qui essaie de les ranger, enfin, parfois inconsciemment, parfois consciemment, de manière à ce que ça entre en résonance avec ce qu'il était au départ. Et en fait, ce qu'il était au départ, il était, comme dit Aristote, en puissance, en réalité, pas energeia. Donc c'est cette énergie de la réalisation de soi qui était à l'origine de la conception du voyage de formation. J'aime pas beaucoup le mot formation, puisque le mot allemand Bildung, la formation, c'est un geste qui donne la forme du dehors.
Oui, comme le potier, l'argile est supposée être, n'avoir aucune forme, mais c'est le potier qui décide.
Voilà.
Alors que pour vous, ce n'est pas le potier qui décide.
Le mot allemand Bildung, c'est tellement intéressant parce que là, on peut déjà ajouter quelque chose à la notion de culture parce qu'il y a plusieurs facettes de la culture. Il n'y a pas une culture. C'est la diversité des cultures qui fait la culture. Eh bien, Bildung en allemand s'applique initialement à la manière dont poussent les plantes. Et donc, c'est un principe de formation à partir du dedans. C'est comme l'ADN qui détermine ensuite les formes que peut prendre un corps vivant.
Oui, mais Heinz Wissmann, la plante, c'est le contraire du vagabond. La plante, elle a des racines, elle a une forme qui va lui être imposée génétiquement. Peut-être elle va profiter selon l'éclairage, les saisons, le climat. Mais le vagabond, lui, il a une forme qui lui vient de ses rencontres. Vous décrivez plusieurs rencontres. Vous diriez à la fois que c'est une expérience des rencontres. À un moment, vous dites que vous vouliez écrire non pas une autobiographie, mais une hétérobiographie. Puis en même temps que Heinz Wissmann était déjà là en puissance, comme la plante, et que en même temps, ce que ces rencontres vous ont appris, c'est qui vous étiez. Les deux sont vrais.
Oui, les deux sont vrais. C'est-à-dire le déracinement absolu, ça n'existe pas sans qu'il y ait perte absolue. Un enracinement absolu est également tout à fait néfaste, dans la mesure où le développement est toujours un dépassement de ce qu'est la racine. Une plante, elle se développe, évidemment, je ne suis pas une plante, moi, je suis un vagabond qui a des pieds et qui se déplace.
Mais quel est votre point commun avec les plantes?
Mais la plante, c'est l'idée que Goethe a développée dans la morphologie des plantes, que les plantes, d'une certaine manière, passent par ce qu'on peut appeler une éducation, au sens latin du « educere », c'est-à-dire on les fait sortir d'une contrainte initiale.
Et de la graine, de la terre.
Et ce sont ensuite des formes qui répondent à ce que l'environnement exige. Et évidemment, il y a un retour qui fait qu'une plante reste elle-même. Mais ça ne veut pas dire, on ne va pas pousser là. Métaphore trop loin, mais ça ne veut pas dire qu'en s'éloignant de ce qu'on est au départ, on devient tout autre. Je crois au contraire qu'en s'éloignant de ce qu'on est au départ, on devient de plus en plus soi-même si on pratique le vagabondage tel que je l'entends, tel qu'on l'a entendu dans le concept de voyage de Bildung.
Alors il y a quelque chose par exemple de très étonnant et de très fort dans votre livre « Penser entre les langues », c'est que vous êtes un passeur entre les langues, effectivement, entre l'allemand, le français, mais aussi le grec ancien que vous pratiquez depuis longtemps et de manière très approfondie. Mais justement, pour revenir à ce que vous veniez de dire, on pourrait dire, on voit votre titre « Penser entre les langues », on se dit voilà, il faut sortir de la spécificité linguistique, il faut penser entre le français, l'allemand, le grec, une sorte d'espace intermédiaire. Mais en même temps, vous, ce que vous dites, c'est que, au bout du compte, on parle français autrement, on parle allemand autrement, on pratique le grec pour lui-même, on est quand même dans chaque langue. L'effet, c'est quand même de la spécificité, de la singularité. Vous n'êtes pas non plus dans une sorte de polylinguisme vague, vous êtes dans plutôt des différenciations dans chaque langue.
C'est exactement ça, c'est-à-dire... Il ne faut pas comprendre l'entre comme un séjour possible.
Alors, on ne peut pas rester pas entre... un intermédiaire. Ah, ça, c'est très important.
Et donc, l'image que j'utilise, c'est l'image du funambule. En réalité, on passe d'un point fixe à un autre point fixe.
Par exemple, quand on traduit.
Mais aussi quand on change de langue.
Oui. Ah, oui, d'accord.
Avant même de s'atteler à la tâche encore plus exigeante de traduire. Mais quand on passe d'une langue à l'autre, on est à un moment... comme suspendu au-dessus du vide. Et l'expérience extraordinaire, donc on peut appeler un déracinement, qui précède un réenracinement, oui. Eh bien, c'est ce moment où le funambule est en train de passer d'un point fixe à un autre point fixe. Et je vois le rapport entre les langues sous cette forme-là. Je pense que toutes les langues ont besoin de funambules pour ne pas peu à peu s'appauvrir. Toutes nos langues européennes sont finalement issues de traductions. C'est depuis le tout début. Et ces traducteurs sont évidemment des vagabonds au sens où je l'entends, qui partent d'un point fixe pour rejoindre un autre point fixe. Et pendant ce voyage, pendant ce déplacement, se produit quelque chose qui est de l'ordre de la création, de l'invention, de l'enrichissement. Et donc une langue va toujours être l'allié de l'autre.
Oui.
Il ne faut pas jouer une langue contre l'autre. J'ai, ici en France, à un certain moment, ça a été entendu, j'ai dit que la francophonie, comprise comme défense et illustration de la langue française, était une erreur.
Alors quel est le vrai sens de la francophonie?
Non, le vrai sens de la francophonie, c'est que les francophones doivent devenir les défenseurs des germanophones, des anglophones véritables, des italophones, car toutes ces langues de culture ont une sorte de destin commun. Et lorsqu'une langue se replie sur elle-même, Elle devient peu à peu stérile. Elle peut se développer un peu depuis ses propres moyens, mais les grandes langues de culture sont des langues qui se fécondent sans cesse mutuellement. Mmh. Je peux vous raconter une anecdote, si vous voulez, qui est tellement drôle.
Bien sûr.
Quand j'étais, après la chute du régime communiste en Bulgarie, chargé de créer une maison des sciences de l'homme.
À Sofia, donc.
À Sofia, oui, qui existe toujours, qui publie. Une de mes satisfactions. Eh bien, pour fêter l'anniversaire, le premier anniversaire de cette institution, l'université avait organisé un dîner dans une grande salle d'apparat où il y avait deux tables rondes. À l'une en parlait allemand, à l'autre en parlait français. Ça, c'était en mon honneur, évidemment.
Vous étiez assis où?
J'étais la table hopper. J'étais entre deux, mais comme le funambule, j'allais l'un à l'autre.
Vous étiez l'hôte de deux tables.
J'étais pas assis au milieu, justement. Il n'y a pas.
Vous avez dîné quand même ce soir?
Très peu. Et à un certain moment, le président de l'université, qui était ministre de la Culture, il a levé son verre et l'a porté un toast à la francophonie allemande.
Ah, c'est très belle.
Ça m'a profondément ému.
C'est une très belle expérience que vous racontez, avec cette tension très, très intime, et on sent qu'elle est intime vraiment à tous les sens du terme. Dans le voyage, il y a une nécessité, mais en même temps, on ne peut pas non plus s'y tenir. Vous dites que le funambule est nécessaire, mais en même temps, c'est dangereux, c'est précaire, c'est instable. Et le but, c'est justement d'apporter une langue dans l'autre, de la transformer de l'intérieur, de montrer que les langues de culture, comme vous dites, ont besoin les unes des autres, mais qu'en même temps, il ne faut pas idéaliser cet entre-deux, parce que ce serait vague, et ça, on perdrait. Le but, c'est de devenir soi-même, de se transformer, finalement.
De se transformer, pas s'installer dans un vague intermédiaire. Parce que ça, c'est grave de considérer que la pluralité des langues nous condamne à pratiquer une sorte de langue du milieu, incertaine, peut-être utile sur le plan pratique, mais qui n'a plus du tout de caractère. Et donc plus aucune possibilité de développement réel. Mmh. Ce sont les langues absolument figées que, dans le livre que j'ai écrit avec Pierre Judé de Lacombe, nous avons appelé langue de service.
Oui, vous distinguez avec Pierre Judé de Lacombe dans cet autre livre sur les langues, avec toujours le mot langue au pluriel, l'avenir des langues au CERF. Vous distinguez les langues, de service ou instrumentales, et puis les langues de culture. Et ça vous paraît fondamental pour l'Europe en particulier aujourd'hui?
Pour le monde entier.
Pour le monde entier.
Et d'ailleurs, cette distinction, c'est tombé maintenant dans le domaine public. Tout le monde l'utilise. C'est nous qui avons inventé cette
notamment
distinction.
Notamment à propos de l'anglais. C'est l'anglais qui est particulièrement travaillé par cette opposition.
Oui, c'est une langue de service qui rend réellement service. Il ne faut pas non plus dénigrer. Mais il ne faut pas confondre la langue de service. Les langues scientifiques sont aussi, dans leur recherche d'objectivité précise, des langues de service. Donc une langue de service n'est pas une langue servante au sens où on déprécierait sa valeur. Non, elle rend service, mais elle ne fait que ça.
Oui.
Tandis qu'une langue de culture au-delà du service qu'elle peut rendre dans une information, permet d'entamer une communication dans laquelle les deux qui communiquent, eh bien, se transforment mutuellement. Dans une information, c'est toujours unilatéral.
Mmh. Une transformation, c'est beaucoup plus profond qu'une information,
finalement. Évidemment, c'est une interaction. Or, les langues de culture permettent l'interaction, y compris, et c'est très intéressant, une interaction avec soi-même dans la mesure où la partie consciente de moi peut, grâce à ma langue maternelle de culture, entrer en communication avec la partie inconsciente de moi. Et c'est ça la création littéraire. C'est un étrange va-et-vient entre la partie émergée de la langue et la partie que j'appelle sédimentée, enfin c'est les ressources sémantiques sédimentées qu'on peut à tout moment solliciter pour créer dans la langue de surface des effets nouveaux d'intelligence, etc. Et ça, les langues de service sont incapables de faire ça.
Ce qu'on voit bien dans ce que vous venez de décrire, c'est finalement que vous prenez le terme de langue extrêmement au sérieux, extrêmement en profondeur, qu'il y a l'opposition langue de service ou véhiculaire et puis langue de culture. Il y a aussi l'opposition entre, disons, la connaissance des mots et la pratique de la phrase, la pratique du texte, qui pour vous est la vraie pratique des langues finalement. Et donc... Il ne s'agit pas seulement d'opposer le monolinguisme où il y aurait une identité close et puis le plurilinguisme qui serait magiquement culturel ou du côté de la paix ou de l'ouverture. Il faut aller plus loin, il faut creuser. Il y a une troisième dimension.
Exactement. Et il y a un point aussi auquel je tiens beaucoup, c'est que ce qui fait que les langues de culture sont différentes et offrent des possibilités différentes d'approfondissement ou de développement, c'est que ce sont des langues grammaticalisées. Les langues de service, quand on regarde bien, ce sont des langues terminologiques, où le mot est évidemment, avec son extrême précision, ce qui est son utilité, souverain. Alors que dans une langue de culture, ce qui fait que je peux dire la même chose autrement, et à travers une autre langue, encore infléchir la manière dont je dis.
Les nuances peuvent arriver par la grammaire.
Et c'est Dante, le premier, je crois, 1303, quand il publie son petit essai sur l'éloquence ordinaire des Vulgari Eloquentia, il dit que la grammatica, et ça c'est le latin des docteurs, langue dans laquelle il ne peut pas faire de poème, parce que c'est une langue purement grammaticale.
Purement justement scolaire aussi.
Scolaire et desséchée, conceptuelle. Eh bien, la grammatica doit entrer en interaction avec le dialecte toscan, qui lui a le défaut que les choses se disent comme elles se disent. C'est-à-dire, il n'y a pas de grammaire non plus dans un dialecte au sens où lui l'entend. Mm-hmm. Non, il dit, il faut que je grammaticalise le dialecte toscan, et c'est comme ça qu'il a fabriqué l'italien.
Donc la langue scolaire avait la grammaire, mais pas la vie, finalement, pas la phrase. Oui. Enfin, elle avait la structure, mais pas le mouvement. Enfin, et inversement, la langue ordinaire avait
toute
le mouvement,
chair
mais pas
la langue. Mais pas.
Et la langue de culture, c'est les deux.
C'est les deux. Voilà.
Dans votre parcours de vagabondage à Innsbruck, il y a une autre troisième dimension qui intervient, c'est-à-dire vous êtes un passeur entre le français et l'allemand et d'autres langues européennes vivantes. Mais quel rôle joue pour vous la troisième dimension des langues anciennes ou des langues mortes, du grec? Vous dites, et est-ce que vous n'avez pas d'ailleurs rencontré le français et le grec à peu près au même moment, ou est-ce que lequel est arrivé en premier dans votre vagabondage?
Non, c'est le grec.
Le grec avant le français?
Je dirais même
déjà en Allemagne.
Oui, déjà à l'école. J'ai commencé par le grec.
Et ça vous a frappé?
J'ai fait du latin et je me suis senti absolument supérieur à tous ceux qui n'avaient pas cette métalangue.
Laquelle des deux? Le latin
mais le
et
grec,
le grec.
Pour moi, a été... Mais bon, ça c'est peut-être une idiosyncrasie. Le grec a été pour moi plus important que le latin, qui était plus proche d'une utilité, encore que les grands poètes latins, après, m'ont aussi fasciné. C'est pas ça.
Oui, en mais apparence au moins, c'est-à-dire qu'il y a du latin un peu partout dans nos sociétés. Le grec est plus manifestement ouvre une autre dimension.
Ouais, ça avait un petit côté snob aussi, c'était aristocratique. Et quand on a voulu, en troisième, me faire apprendre l'anglais, dans un manuel qui portait le titre engageant Peter Pym and Billy Ball, c'était deux garnements londoniens qui échangeaient des propos dépourvus de tout intérêt. Ah oui. Donc j'ai refusé d'apprendre l'anglais. Bon, l'anglais, ça s'apprend quand on veut.
C'était fait pour vous séduire, mais là, ça a pas marché.
Non, mais là, c'était pas le bon manuel.
Oui.
Or, quand il y a eu les problèmes après 68 avec les langues anciennes et qu'une tentation s'était présentée de faire des langues anciennes, des langues parlées, genre assimile, latin, assimile, etc.
Oui,
je me suis insurgé.
On traduisait aussi Astérix, ça a été traduit en latin.
Voilà. Moi, je trouve que c'est pas ça. Les langues anciennes doivent garder leur distance en tant que métalangues qui sont à l'arrière-plan, d'une certaine manière, très très utile pour prendre déjà, par rapport à la langue qu'on parle spontanément, une sorte de distance.
Ce que vous dites à la fois dans votre livre « Penser entre les langues », mais aussi dans le livre avec Pierre Judet de Lacombe, c'est que justement parce que les langues anciennes ne sont pas parlées, elles obligent à accéder à la langue à partir du texte, à partir du sens, à partir de quelqu'un qui a écrit quelque chose, qui voulait transmettre un contenu, qu'il faut comprendre dans ses nuances, dans sa structure. Et au fond, c'est loin d'être un document figé. Le texte, pour vous, est justement la présence la plus vivante, peut-être, de la pratique des langues. Mais on l'oublie dans la vie ordinaire parce qu'on est dominé par cet autre usage.
Mais pendant des siècles, l'éducation s'est faite à l'aide de textes. De langues, mais dans
le
des
texte,
textes.
Avant
et
tout
pourquoi
le texte.
Parce que les textes qu'on étudiait étaient des œuvres. Il ne s'agissait justement pas... Actuellement, par exemple, on enseigne l'allemand en France à l'aide d'extraits de journaux. C'est une langue qui n'est justement pas la langue qu'il s'agit de découvrir. C'est un détournement qui engendre d'ailleurs une sorte de presque ras-le-bol chez les élèves.
Oui, Simone Veil disait c'est de malheur, hein, parce qu'elle disait justement que l'éducation doit donner du bonheur et du bien. Et que si on en prive le sujet, elle parlait carrément de malheur.
Les langues des journalistes, qui sont aussi d'une certaine manière les langues de service, cherchant des effets, etc. Alors qu'un texte, et surtout les grands textes, moi je suis un défenseur acharné de l'éducation à l'aide de grands textes qui sont des œuvres dans lesquelles l'être en formation découvre ce que peut être une totalité achevée. Car toute œuvre est une totalité, mais une totalité qui obéit à son propre principe de développement intérieur, ce qui désigne le Bildung en allemand. Eh bien, si on apprend les langues uniquement à travers leur usage courant, utilitaire, etc., l'intérêt de la diversité des langues disparaît. Mmh. Et du coup, on peut se rabattre sur une langue de services, comme l'anglais international, qui rendent les services incontestables, mais fournit absolument pas la possibilité à celui qui veut se développer ou qui veut entamer une communication avec autrui, d'aller au fond de ce qui est possible comme expression de soi.
Après ce que vous venez de dire, Heinz Wissmann, et qu'on reprendra ensuite, personne ne sera surpris que vous ayez choisi pour jalonner la discussion, non seulement un magnifique morceau de musique, mais une musique, je ne sais pas s'il faut dire, accompagnant ou posée sur un poème, Le Roi des Aulnes de Schubert, mais aussi du poète.
Dein Gesicht siehst vor.
France Culture, matière à penser, toujours avec vous, Heinz Wissmann. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez le poème « Le roi des aulnes » chanté par Dietrich Fischer-Dieskau sur la musique de Schubert ? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'œuvre dans le langage et dans l'art et dans l'histoire ? Parce que dans votre étude sur les langues, il y a aussi un chapitre important sur l'art et son histoire, Heinz Wissmann.
Enfin, il y a une chose déjà qui frappe quand on vient d'ailleurs et qu'on constate que les Français ont deux mots pour la musique qui accompagne les paroles.
Ah bon? Ah oui.
Chanson.
Oui.
Et lead.
Les Français ont le mot allemand, vous voulez dire?
Mais ils ont besoin du mot allemand pour
on
dire.
On dit en français les leaders de Schubert.
Parce que ils sentent, de manière peut-être peu explicite, qu'un lead n'est pas une chanson. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé à cette différence, parce que dans la chanson, la musique a une fonction d'appui par rapport à la parole qui, elle, est l'essentiel. Enfin, c'est Brassens, par exemple, on voit très bien comment l'accompagnement est destiné, avec une très très grande subtilité, à souligner simplement des éléments que la parole contient déjà.
Oui, du coup, on a l'impression que c'est presque toujours le même accompagnement, mais avec des nuances selon le texte, justement.
Et ça peut être très raffiné. Alors ça, il ne faut pas non plus minimiser.
Bien sûr.
Alors que le lead a la particularité de permettre à la musique d'emporter la parole au-delà d'elle-même. C'est-à-dire de faire de la parole quelque chose qu'elle est en allemand. C'est-à-dire une aspiration à une sorte d'infini. La phrase allemande, à cause de la syntaxe allemande, comme vous savez, doit être prononcée jusqu'au bout, car c'est pas forcément le verbe à la fin, ça, comme on dit. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être. Mais ce qui
il faut
est à
attendre
la fin.
La fin
mais ce qui est à la fin est la chose dont on parle.
Qui boucle le sens, qui donne la clé.
Qui boucle le sens. Et donc, il y a une tension dans la phrase allemande qui correspond à cette espèce de mouvement que la musique imprime par la simple sonorité à un processus qui doit aboutir à quelque chose qui en musique sera la tonalité ou que sais-je, on retombe sur ses pieds. Mmh. Et je ressens, comme les Français qui disent que c'est des leaders, je ressens une profonde différence entre la manière dont on vit la musique dans son rapport à la langue en Allemagne, à travers aussi les chorales protestantes, qui est la première expression adéquate de la confession protestante, c'est pas le sermon,
c'est le
c'était la, c'est les chorales. Or les chorales protestantes, c'est ça Bach. Or Bach, c'est la musique classique. Ça naît comme ça. Et pour le dire en un mot, ce qui caractérise la musique telle que les Allemands la perçoivent, c'est que la musique possède une autonomie, par rapport à la scène que le programme littéraire, par exemple, d'un chant, déploie. Or, depuis Couperin, la voluptueuse, par exemple, jusqu'à Debussy, la mère, il est frappant de constater que la musique française est très souvent, je veux dire...
Un accompagnement, plutôt.
Non, pas au sens maintenant, c'est pas pour dire que c'est moins bien, c'est pour dire que c'est un autre geste, où la littérature, d'une certaine manière, le programme...
Ouais.
Et premier.
Mais le paradoxe, pour rester un instant sur ce sujet très précis, Heinz Wissmann, le paradoxe dans ce que vous venez de dire, c'est que la phrase allemande, contrairement à la française, comme vous le dites très bien, et vous reprenez une très belle description de Germaine de Staël, montrant les deux manières de converser, en français on peut s'interrompre, d'ailleurs je me le suis permis trop souvent, mais en allemand on peut pas parce qu'il faut attendre la fin de la phrase de l'autre. Donc cette différence de syntaxe, de grammaire entre les langues, devrait faire que la phrase allemande, impose encore plus sa règle au musicien, puisqu'il faut attendre qu'elle soit finie. Or, vous dites que c'est l'inverse. C'est la phrase allemande qui ouvre le fini de la musique, alors que la phrase française, qui normalement pourrait être interrompue à tout moment, pourrait être ouverte à l'inspiration du musicien, elle s'impose à lui. Alors, c'est un peu paradoxal, quand même.
Mais quand vous vous embarquez dans une phrase allemande,
ouais,
vous êtes tenaillé par une forme d'angoisse de ne jamais parvenir à ce terme
que vous visez.
Oui, la particule séparable, comme on dit, qui n'est pas rejetée à la fin parce qu'elle y était toujours accompagnée de la partie conjuguée du verbe qui a simplement été déplacée pour produire un effet d'affirmation, d'interrogation, etc. Donc, la phrase allemande fait qu'il y a une tension chez le locuteur et c'est cette tension-là
que le musicien doit retrouver finalement.
Il finit par l'extraire et elle n'est pas liée à ce que dénotent seulement les mots. Mmh. Il y a au-delà des mots, il y a le mouvement généré par l'enchaînement des mots qui sont, je sais pas, comme attirés par quelque chose qui idéalement pourrait se situer dans l'infini. Mmh. C'est-à-dire la phrase finale de toutes les phrases allemandes, c'est le système de Hegel.
Une phrase
c'est
unique,
une
qui
seule
englobe
phrase
tout,
allemande.
Tout l'esprit.
C'est tout, c'est
tout le système de la pensée.
Oui, donc c'est une seule phrase allemande où tous les déterminants possibles ont été visités. Et c'est ça que je veux dire. Il y a là une dynamique qui est extraordinairement exigeante, mais comme dit Germaine de Staël, non sans humour, comme les Allemands ne savent pas toujours ce qu'ils veulent dire, eh bien, elle dit qu'ils doivent au moins prendre l'air d'avoir quelque chose à dire pour pouvoir réduire leur interlocuteur au silence. Et là, c'est l'autre versant déplaisant.
De cette grammaire qui impose une intention dès le début, puisque finalement, on doit avoir en tête quand même, au moins en apparence, ce qu'on veut dire, la fin de sa phrase. Mmh. Le mot le plus important pour vous dans tout ce que vous venez de dire, Heinz Wissmann, qu'on soit dans la grammaire française ou allemande ou grecque, c'est le mot autonomie finalement. C'est le mot, votre idée directrice aussi, à travers le vagabondage, l'enrichissement de chaque langue, c'est l'idée que finalement on doit se différencier. La culture est ce qui nous permet de nous différencier, mais aussi de nous autonomiser, finalement d'être libre. Et dans l'espace politique européen aujourd'hui, quand avec Pierre Judet de Lacombe vous défendez les humanités, la pratique du texte, ça n'est pas pour vous la culture au sens d'un loisir, c'est la culture au sens vraiment d'accès à la singularité, à l'autonomie, à la différence historique aussi. Quelle est la culture de notre temps, de notre lieu? Est-ce que cette revendication d'autonomie n'est pas le cœur aussi venu de la grande philosophie kantienne, justement, de votre pensée?
Oui, je pense que chez Kant, c'est explicite. Et je pense que chez les Renaissants, c'est déjà le véritable ressort de ce qu'ils s'appelaient humanistes. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se contenter, dans l'interprétation des textes, des règles de compréhension que le magistère de l'Église romaine imposait lors de la lecture des textes bibliques. Mmh. Parce que si vous avez des... éléments de doctrine.
Tout fait, tout prêt.
Tout fait. Vous ne citez plus que des morceaux de texte. Et j'ai souvent vu que dans la pratique de la dissertation à la française, il y avait ce travers hérité.
Ah, les pratiques scolaires, c'est les morceaux choisis, bien sûr, c'est les citations.
Voilà. Alors que si vous êtes dans la logique revendiquée par les humanistes, c'était... on était dans la situation de devoir découvrir un auteur humain.
Un texte de quelqu'un.
Et ça, c'est les textes
grecs
et latins.
Quelqu'un. C'était pas juste un retour à une culture au sens d'une autorité, mais un retour à une culture au sens de pensée vivante.
Voilà, et c'est l'autonomisation d'un sujet dans un texte œuvre qui est le véritable objet d'admiration et aussi d'exercice.
Et comment est-ce que ça se traduit politiquement aujourd'hui pour vous, Heinz Wissmann? Votre livre avec Pierre Judet de Lacombe, j'ai été surpris moi-même de retrouver sa date. C'était déjà une mission qui vous avait été confiée en 2001 sur l'avenir des humanités, des langues anciennes. On est en 2018, ce sujet revient. Est-ce que pour vous, cette politique des langues est toujours urgente dans l'Europe d'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui?
Mais c'est le sujet incontournable à partir du moment où on se pose le problème comme j'ai essayé de me le poser à moi-même, qu'est-ce qui fait qu'une évolution, donc ça peut prendre la forme du vagabondage, de l'arrachement à quelque chose de certain, etc., la découverte de l'ailleurs, qu'est-ce qui fait que cette éducation, au sens étymologique du terme, conduire dehors,
oui, oui.
Qu'est-ce qui peut faire que cela ne conduit pas à nous perdre, mais nous ramène à nous? Parce que autonomie, ça veut
et
dire...
Et à créer quelque chose.
Voilà. Et donc, les langues, en tant que manifestation humaine, de locuteurs qui sont dans des êtres humains, appelés à être eux-mêmes. Eh bien, les langues sont le terreau, ou d'une certaine manière, toutes ces plantes-là qui doivent se développer s'enracinent. Et je suis absolument convaincu que le problème des humanités est un problème incontournable. Sinon, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de culture. Simplement, le terme est souvent galvaudé.
C'est-à-dire le terme pour... d'humanité ou le terme d'humanité. Les humanités les qui humanités. Sont aujourd'hui encore au cœur des nouveaux programmes du baccalauréat, au cœur de beaucoup, qui reviennent de partout. Il y a des humanités numériques, des humanités médicales, voilà. des humanités dans le management. Mais peut-être que c'est bon signe malgré tout, Heinz Wissmann, ce retour, à condition qu'on lui donne un vrai contenu.
Oui, c'est bon signe, mais c'est aussi accompagné d'un risque de dilution tel que finalement ce que ça désignait au départ, à savoir l'avènement d'un être humain autonome. Ça pouvait être dans un texte, dans un exercice scolaire, la manifestation de cette capacité d'être soi. Eh bien, lorsqu'on a des humanités numériques, c'est presque un abus de langage, parce que les outils numériques sont extraordinairement utiles quand on fait de la recherche approfondie sur certaines particularité des textes.
Elles peuvent faire apparaître de nouvelles dimensions du texte.
Voilà, on peut parfaitement s'en servir. Mais il ne faut pas s'imaginer que l'outil informatique est une humanité.
En lui-même.
Non, il faut que ce soit au service du projet. On le sait. En allemand, c'est très amusant, en allemand, on n'a pas le mot humanité. On appelait humanité humaniora. On prenait le comparatif du latin, et c'est pas un comparatif, c'est un oppositif pour dire on s'occupe de choses humaines et pas divines. Et c'est pour ne plus limiter l'effort à la compréhension de la Bible, mais de l'appliquer à des œuvres qui ont pour auteur des êtres humains.
Ça veut pas dire plus humaine que les autres hommes, ou que les autres langues, ou que les autres cultures,
non,
mais...
du tout.
Plus humaine que divine, plutôt humaine que divine.
Et c'est très clairement inscrit dans ce comparatif oppositif, humaniora. On faisait des études de humaniora, ça voulait dire la création humaine à travers les âges devait témoigner de ce que l'homme pouvait être.
Mais alors comment est-ce que vous conciliez, Heinz Wissmann, cet éloge des humanités, du vagabondage, du dehors, en fait, comme expérience de l'autre pour arriver à soi, avec quand même le cadre nécessaire qui est plutôt qu'on critique parfois, évidemment je ne reprends pas cette critique, mais je la rapporte comme un espace d'enfermement dans le texte, dans l'école. Pour accéder au dehors, il faut quand même passer par un dedans, par un cadre d'enseignement. Aujourd'hui, il faut le défendre, ce cadre, ces institutions, justement parce que c'est elles qui nous font vraiment sortir dans le vrai monde.
Mais évidemment, c'est ça, c'est tout le paradoxe.
Mais comment justifier ce détour?
Oui, la contrainte, par exemple, qui consiste à exiger de quelqu'un ce qu'il n'a pas encore fait.
Oui.
C'est le début de tout. Et donc, si on présente les connaissances comme des choses accessibles le plus rapidement, le plus facilement, eh bien, on les dévalorise. Ce qui prend de la valeur par rapport à celui qui s'en empare, c'est justement l'effort, le temps qu'il faut pour l'obtenir. Je dis toujours de manière très banale que toute gratification est proportionnée au temps qu'on a investi pour l'obtenir.
Et ce temps qui crée la différence entre un avant et un après, avant de savoir jouer du piano, ou jouer
c'est
au tennis,
ou
jouer du tennis,
à jouer de
ou...
tennis, exactement.
Parce que vous parlez beaucoup de cet exemple. Oui, oui, oui. Et avant d'accéder à la culture, il faut l'apprendre, la traverser.
Voilà. Et là, le maître est nécessaire, le cadre est très très utile, parce que si on n'encadre pas les jeunes pousses avec leur appétit qui part dans tous les sens, etc., si on ne les contraint pas, d'une certaine manière, à s'engager dans cette voie que Rousseau a parfaitement décrite, qui est celle d'une expérience authentique, si on ne les engage pas dans cette voie, ils vont s'éparpiller, accumuler des connaissances, mais rester incultes.
Ils n'ont fait aucune expérience personnelle de cette culture que vous défendez.
Il n'y a pas d'intériorisation et donc pas de véritable apprentissage au sens plein du terme.
Mais est-ce que vous croyez, Heinz Wissmann, que c'est politiquement, au sens de, dans un contexte où il y a une inquiétude sociale sur les effets de l'éducation, sur la manière dont elles peuvent conduire, dont l'éducation peut conduire à ce qu'on appelle un débouché, un métier, est-ce que vous croyez que cette défense de la culture va pouvoir être entendue au sens où c'est elle qui permet peut-être aussi aux étudiants de choisir un métier, d'accéder aussi à la société dans ses aspects les plus concrets?
Il y a un phénomène quand même très intéressant, c'est la lettre de motivation où...
pour un job, comme on dit.
Où l'exposé de présentation de soi. En l'absence de soi, il est très difficile de se présenter. Or, on peut évidemment revendiquer le rôle d'un rouage utile dans un processus de production. Et on peut être un patron qui ne veut que ça. Mais l'expérience, j'interviens beaucoup dans des clubs d'entrepreneurs pour discuter de ce genre de choses. Eh bien, généralement, un chef d'entreprise a davantage envie d'avoir quelqu'un que quelque chose.
Que quelque chose.
Et à l'école, on apprend aussi à exprimer ce qu'on est à travers ce qu'il exprime au sujet du reste. C'est pour ça que les exercices scolaires, la rédaction de quelque chose aussi d'imaginaire, etc., tout ce qui touche le maniement de la langue est d'une valeur extrême pour la formation de ce soi qui peut ensuite, dans le monde professionnel, faire état des connaissances acquises en plus. Mais s'il n'y a que des connaissances, que des aptitudes, que des façons de fonctionner, je suis absolument persuadé que ce n'est pas du tout un avantage réel lorsqu'on cherche un job.
Et donc il faut passer de la lecture, de l'interprétation des textes, aussi à l'écriture, à l'expression de soi-même, donc oui, créer sa propre différence aussi. Et pour vous, l'avenir des langues passe aussi par l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature, le fait que chacun peut accéder aussi à ce rapport à lui-même.
Oui, c'est-à-dire il faut être amené à investir un certain temps pour obtenir une satisfaction qui est proportionnée à cet investissement. Si on ne fait pas cette expérience, ça peut être devant un tableau, devant un morceau de musique, ça peut être devant un texte, si on ne fait pas cette expérience, qui est une expérience d'élargissement, ou d'enrichissement, comme on veut, eh bien, on reste d'une certaine manière une larve.
Merci beaucoup, Heinz Wissmann. Merci de nous avoir montré comment la pratique des langues implique une philosophie de l'homme, finalement. Une philosophie tout court.
Merci de m'avoir reçu et de m'avoir permis de dire deux ou trois choses auxquelles je tiens beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Matière à penser, Heinz Wissmann, Delphine Baudet, Céline Leclerc, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Vance.